C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Missak, l'enfant de l'affiche rouge.
Écrit par Didier Daninx.
Illustré par Laurent Corvézier.
Aux éditions Rue du Monde. Je m'appelle Missak Manoukian. Missak, ça se dit Michel en français. Le soir, où que je me trouve, je m'endors au cœur du plus beau paysage du monde, le village d'Adiaman, là où je suis née il y a 37 années.
Même ici, dans cette prison aux murs glacés, il suffit que je ferme les yeux pour redevenir un enfant d'Arménie.
Avec mon frère Karabet, nous courions dans les collines autour de la ferme, nous grimpions aux arbres, nous nous baignions dans le fleuve. Pas une fleur, pas un parfum, pas un cri d'animal ne nous était inconnu. Les coquelicots, les orchidées, l'aigle criard, le monde nous appartenait.
Mais un jour, un orage de fer et de feu s'est abattu sur notre paradis. Les soldats aux ordres du pacha voulaient effacer l'Arménie de la carte du monde. Mon père est mort, le fusil à la main, en défendant sa famille.
Karabet et moi, nous avons été recueillis par des paysans kurdes. Je suis vite tombé amoureux de leur fille, Dilara, de son regard couleur de ciel, de ses joues cerises, de son sourire plein de lumière. Je lui avais promis de l'épouser quand on serait grand et qu'on partirait, loin, sur un fier cheval blanc.
Je n'ai jamais été seul. Jamais. Dans le couloir, derrière cette porte, 21 autres portes emprisonnent mes compagnons. Ils ont eu pour seul tort de se battre pour libérer la France, le pays qui les a accueillis. Marcel, Spartaco, Jonas, Emmerich, Willy, Wolf, Roger, Stanislas, Armenek, Amedeo, Cesare, Rino, Zlama, Antonio.
J'avais 10 ans quand il m'a fallu quitter mon village, sans espoir de retour, et commencer une nouvelle vie, au Liban, avec des centaines d'autres orphelins arméniens. Toujours partir, jamais désespérer. J'ai appris un métier, menuisier. Mais ce que je préférais par-dessus tout, c'était faire de la gymnastique sur la plage de Djounieh et réciter les poèmes en français que nous lisait notre maître. La nuit, en secret, j'essayais d'en écrire.
Ce matin, au premier rayon du soleil, un oiseau est venu picorer les miettes de pain que j'avais posées sur le rebord de la fenêtre. Il n'a pas eu peur de moi. Mes doigts l'ont effleuré. J'aurais aimé pouvoir m'envoler d'un battement d'ailes, comme lui. Repartir, là-bas.
J'avais tant rêvé de Paris que je craignais d'être déçue en y arrivant. La vie était dure aux exilés, comme partout, mais la ville était douce. J'avais l'impression d'être un mot qui a enfin trouvé son poème. J'ai travaillé en usine à construire des voitures. Puis, quand on n'a plus voulu de mes bras, j'ai posé pour des peintres, des sculpteurs, à Montparnasse. J'ai même essayé d'être figurant pour le cinéma.
Un jour de février 1934, le ciel s'est soudain assombri. Des hommes en brun, par dizaines de milliers, ont essayé d'effacer les mots qui disaient la France. Liberté, égalité, fraternité, ces mots que j'aimais avant même de les connaître. D'autres hommes, par centaines de milliers, se sont dressés pour les défendre. J'étais parmi eux.
Il y avait aussi Mélinée, orpheline d'Arménie, comme moi. Je l'aimais en secret. Un jour, qu'elle me demandait si j'avais une fiancée, je lui ai tendu un tout petit miroir. Oui, voici sa photo. Elle a regardé, elle s'est vue. Nous ne nous sommes plus jamais quittés. Mélinée habitait chez les Aznavourians, une famille de musiciens. C'est devenu notre famille. Il y avait l'oncle Micha, qui chantait de l'opéra, et Charles, son tout jeune fils, qui gagnait ses premiers concours de chant. Pas une semaine ne se passait sans que nous fassions la fête en mangeant du taboulé, du houmous, des baklavas, des kadaïfs.
Quand, en juin 1940, l'Allemagne nazie s'est emparée de Paris, nous avons continué à nous retrouver, à chanter ensemble, en arménien, juste un peu moins fort. Cela nous était aussi nécessaire que l'air que nous respirions, que l'eau qui rafraîchissait nos lèvres. Nous avons pris les armes pour libérer la France, ce pays meurtri, un monde qui allait être réduit en esclavage. Sans haine pour le peuple allemand, mais sans hésitation, parfois nous tirions. Nos cibles portaient toutes l'uniforme du dictateur Adolf Hitler.
Tous mes compagnons avaient quitté leur pays pour échapper à la prison, à la guerre, à la faim. Ils venaient d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Hongrie, de Roumanie, d'Arménie. Beaucoup parlaient le yiddish, la langue des juifs d'Europe, et Mélinée, à mes côtés, essayait de l'apprendre. Nous avons surtout, ensemble, écrit le mot le plus indispensable de la langue française. Résister.
Des centaines de policiers français, alliés des nazis, ont été lancés à nos trousses. Le combat était inégal, nous étions moins de 100. 23 d'entre nous ont été condamnés à mort par le tribunal militaire allemand. J'ai trouvé la force de dire « Bonheur à tout ce que j'aime, par-delà les murs qui m'en serrent. » L'oiseau est revenu quand le gardien est sorti. Après m'avoir apporté du papier et un crayon pour que j'écrive ma dernière lettre. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Comme tous les jours, les cloches se sont mises à sonner ce 21 février 1944 pour marquer les 3 heures de l'après-midi. Mais ce n'est pas à cause d'elles que l'oiseau a pris peur et a disparu. 3 coups de feu ont emporté ma vie.
J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant, pour accomplir ma dernière volonté. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Ton ami, ton camarade, ton mari.
Missiak Manoukian.
Devine combien je t'aime. Texte de Sam McBratney. Illustration Anita Géram. L'école des loisirs. C'est l'heure d'aller dormir. Petit lièvre brun attrape les longues oreilles de grand lièvre brun et ne les lâche plus. Il veut que grand lièvre brun l'écoute vraiment. Devine combien je t'aime, lui dit-il.
« Comment veux-tu que je devine cela ?» demande grand lièvre brun.
Je t'aime grand comme ça, dit Petit Lièvre Brun en écartant les bras le plus largement qu'il peut.
Et moi, je t'aime grand comme ceci, lui dit Grand Lièvre Brun en écartant ses très longs bras.
Oh, c'est vraiment très grand, se dit Petit Lièvre Brun. Je t'aime haut comme ça, dit alors Petit Lièvre Brun en s'étirant de toutes ses forces.
Et moi, je t'aime haut comme ceci, dit Grand Lièvre Brun en s'étirant également.
Ah, oh, c'est vraiment très haut, pense Petit Lièvre Brun. J'aimerais bien avoir d'aussi longues pattes. Soudain, Petit Lièvre Brun a une idée. Il fait une culbute et appuie ses pattes arrière contre le tronc de l'arbre. « Je t'aime jusqu'au bout de mes orteils, » dit-il.
« Et moi, je t'aime jusqu'au bout de tes orteils, » dit Grand Lièvre Brun en le faisant voler par-dessus sa tête.
« Je t'aime aussi haut que je peux sauter, » dit Petit Lièvre Brun. Et il fait un bond, joigne, deux bonds, joigne, joigne. Trois bons, doing, doing.
Et moi, je t'aime aussi haut que je peux sauter, dit Grand Lièvre Brun. Et il bondit si haut que ses oreilles touchent la branche de l'arbre.
Quel grand saut, se dit Petit Lièvre Brun. J'aimerais bien pouvoir sauter aussi haut que ça. Je t'aime aussi loin que le chemin qui mène à la rivière, dit Petit Lièvre Brun.
« Je t'aime aussi loin que la rivière, par-delà les collines, » dit Grand Lièvre Brun.
« Ça, c'est vraiment très loin, » pense Petit Lièvre Brun. Mais il a trop sommeil pour réfléchir. Il lève le nez et regarde la grande nuit sombre. Rien ne peut être aussi loin que le ciel. « Je t'aime jusqu'à la lune, » murmure-t-il en fermant les yeux.
« Ça, c'est très loin, » dit Grand Lièvre Brun. « Vraiment très loin. »
Alors Grand Lièvre Brun installe Petit Lièvre Brun dans son lit de feuillage et l'embrasse en lui souhaitant une bonne nuit. Puis il lui chuchote au creux de l'oreille. « Moi, je t'aime jusqu'à la lune et retour. »
Plouf. Un livre de Philippe Corentin. Voilà, c'est l'histoire d'un loup qui a très faim. Mais alors, très, très faim. Un soir, au fond d'un puits, il voit un fromage. Il se penche pour l'attraper. Il se penche et... plouf ! Il tombe dans l'eau. Il s'aperçoit donc que le fromage n'était que le reflet de la lune. Il est furieux, il est trempé, il a froid, et il ne sait pas comment remonter. Ah ! Du bruit ! Là-haut, quelqu'un approche. C'est un cochon. Qu'est-ce que tu fais là ? S'étonne le cochon.
Oh, je suis bien ici. Il fait frais et tout. Et il y a un gros fromage. Tu peux venir si tu veux.
Oui, mais comment je descends?
Oh, tu t'accroches à la corde, dit le loup.
Hop, le cochon descend. Et hop, le loup remonte. Il va pouvoir attraper le cochon. Et non, le cochon gras comme un cochon descend trop vite. Raté. Ah, le cochon, dit le cochon qui s'aperçoit que le loup a menti. L'énorme fromage n'était que le reflet de la lune. Il a froid et il est furieux. Comment remonter ? Le temps passe. Il a de plus en plus froid et il est de plus en plus furieux. Le loup a disparu, la lune aussi. Il fait presque jour. Ah ! Du bruit.
Oh ! C'est un lapin. Une famille de lapins.
Ah ! Mais ça, mais qu'est-ce que tu fais là ?
Demande le père lapin.
Hé, je suis bien ici, je me baigne, je nage, je plonge, je m'amuse beaucoup, mais je m'en vais, car comme dans tous les puits à carottes, il y fait trop chaud.
Un puits à quoi ?
S'exclame le lapin.
Bah, un puits à carottes !
Hurle le cochon.
Comment descend-on ?
Pour descendre dans un puits à carottes, monsieur le lapin, on prend le seau, s'énerve le cochon.
Hop, les lapins descendent.
Et hop, le cochon remonte.
Bon appétit,
dit le cochon.
Et attention à l'indigestion.
Brrr, mais les lapins au froid, ils claquent des dents.
Et pas une seule carotte, évidemment. Il remonte. Mais pas très très haut, les uns au-dessus des autres.
Ah, des pas. Oh, c'est un loup.
Le loup du début, celui qui avait très très faim.
Mais qu'est-ce que vous faites là ?
Ricane le loup.
Oh là là, tu peux pas savoir comme on est bien ici. Taratata, c'est ça, c'est ça, et je parie qu'il y a un gros fromage, hein ?
Rétorque le loup qui n'en peut plus tellement il rit.
Non, il n'y a pas de fromage.
Mais il y a plein de lapins à manger, répond finalement le père lapin.
Tu n'aimes plus ça ?
Oh ! Mais si, mais si ! S'esclaffe le loup qui, oubliant toute prudence, saisit la corde et se jette dans le puits.
Ça y est, les lapins remontent.
Le loup essaie d'en attraper un au passage, mais trop pressé. Il descend trop vite, beaucoup plus vite qu'il ne le voudrait.
Raté ! Plouf !
A fait le loup en tombant dans l'eau.
« Ouf !» font les lapins en arrivant là-haut. « Et boum !» fait le seau. « Et ouille !»
fait le loup.
Mercredi à la librairie, de Sylvie Niman et Olivier Talec, édition Sarbacane. Je crois qu'il ne vient que le mercredi. En tout cas, chaque mercredi, je le vois. Lui et moi, on ne lit pas les mêmes choses. Moi, c'est plutôt les bandes dessinées. Je lis vite. En moins d'une heure, j'ai fini. Lui, il lit plus lentement. Son livre est plus gros aussi. C'est une histoire de guerre, de bataille. J'ai vu le titre. Elle a dû être longue, cette guerre. Peut-être qu'il n'y a une page par jour de guerre. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus pourquoi il lit ça. À quoi ça peut bien lui servir ? Moi, je rigole souvent, ou du moins, je souris avec mes BD. Lui, parfois, il sort un mouchoir de sa poche et s'essuie les joues. Un jour, Il a vu que j'avais remarqué pour les larmes. Il a haussé les épaules, il a dit « Les vieux yeux coulent un peu trop facilement. » J'ai pensé que ça n'expliquait pas tout. J'étais en retard aujourd'hui. Lui, il se préparait à partir. Tous les gestes qu'il faisait, il les faisait lentement. Même s'essuyer les yeux. Il a mis son manteau, son écharpe. Il a reposé le livre à sa place, dans le rayon. Avant de sortir, il a dit à la libraire « Pourvu que vous ne le vendiez pas. » Le mercredi suivant, je suis restée plus longtemps. J'ai lu deux bandes dessinées. J'ai même commencé un roman. Il n'est pas venu. J'ai peur qu'il soit malade. Je n'ai pas osé demander. Le livre, lui, il était à sa place. Je l'ai ouvert. Il n'y avait pas d'image. Juste quelques dessins gris, des cartes de géographie. Il était lourd. J'ai pensé que c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas là, le vieux. Trop lourd, ce livre. Il est revenu. Il était assis dans son fauteuil habituel. Je suis restée longtemps, de nouveau. Quand il est parti, il s'est retourné et a dit au revoir. Et aussi, j'espère que vous n'allez pas le vendre trop vite. Je me demande bien pourquoi il ne l'achète pas, ce livre, s'il y tient tant. Les vacances approchent. La libraire accroche des petits bouts de Noël dans sa vitrine, sur le comptoir. Elle dépose des petits bouts de Noël et des bonbons sur la table basse devant le fauteuil du vieux monsieur. Moi aussi, j'ai eu droit d'en prendre. Pour ouvrir le bonbon, il lui en a fallu du temps. Noël, c'est dans 3 jours. Mais il n'y a pas de neige. Il est entré. Il a enlevé son chapeau, son manteau, son écharpe. Il fixe les rayons du livre. Il ne trouve pas celui qu'il cherche. Il pense peut-être qu'il s'est trompé de rangée ou que ses vieux yeux... Je m'avance. Je regarde moi aussi. Je dis « Il n'est plus là. » Il me regarde. Il dit « Ça devait bien arriver un jour. De toute façon, je n'en avais même pas lu la moitié. Qui sait si j'aurais eu le temps ?» Je dis « Vous devriez essayer les BD. C'est rigolo et puis ça va plus vite. » La libraire s'approche. Elle demande « C'est le livre sur la bataille de la Marne que vous cherchez ?»« Oui, mademoiselle. » Il a été vendu ce matin pour Noël. Ah oui, Noël, bien sûr. Moi, ce mot de Noël, ça me met toujours plein d'étoiles dans la tête. Et lui, on aurait dit que ça lui avait déposé un gros sac sur le dos. Mais avec quoi dedans ? Il remet son chapeau, son manteau. « Eh bien, au revoir, mademoiselle, et joyeux Noël. » Elle lui tend un paquet, emballé dans du papier doré avec de la ficelle rouge autour. « Joyeux Noël à vous !» Elle ajoute « Mais revenez quand même nous voir, de temps en temps. » Il a souri, le vieux monsieur. On a tous souri, je crois. Et puis il est sorti. Le paquet sous son bras. Finalement, il n'était pas si lourd que ça, ce livre.
C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.